France Culture, il est midi 31. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et si la taxe carbone, dont la hausse avait été gelée par le gouvernement pour calmer la crise des gilets jaunes, revenait sous une autre forme ce matin, 86 députés publient dans les colonnes du journal Le Figaro une tribune appelant au retour de l'impôt sous une forme plus juste socialement.
Dans votre édition également, le gouvernement qui présente aujourd'hui un projet de loi santé pour réformer en priorité les études de médecine et la carte hospitalière.
Un projet qui devra être adopté d'ici à l'été prochain et pour en parler, invité du journal aujourd'hui, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Et puis nous reviendrons sur l'adoption hier à l'Assemblée d'un amendement érigeant le droit à une scolarité sans harcèlement comme un principe du droit à l'éducation.
À l'étranger, direction tout d'abord la Belgique.
Espace aérien fermé, transport perturbé, piquet de grève dans tout le pays. La Belgique tourne au ralenti aujourd'hui en raison d'une grève générale à l'appel des principaux syndicats pour de meilleurs salaires. Enfin, nous nous intéresserons à cette annonce ce matin du Premier ministre australien en faveur de la réouverture d'un camp de rétention de migrants très controversé, durcissant ainsi un peu plus encore sa politique migratoire, et ce après une défaite historique la veille au Parlement. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Alors il défend dans son quotidien, comme avocat, beaucoup d'infréquentables. C'est l'avocat Nicolas Gardère qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Ensemble, on parlera des libertés fondamentales, comment les défendre, quelles sont celles à préserver, quelles sont les limites aussi à poser. Cyberharcèlement, loi anti-casseurs, défense donc de figure de l'extrême droite, beaucoup de sujets à aborder avec notre invité dans la deuxième partie de l'émission.
Merci et à tout à l'heure. Et pour commencer, donc, en revoilà la fameuse taxe carbone. Deux mois après son abrogation par le Premier ministre, cet impôt à l'origine de la mobilisation des Gilets jaunes pourrait-il faire son grand retour? Après que le ministre de la Transition écologique et plusieurs membres de son cabinet, de même que le délégué général de la République En Marche, ont remis le sujet sur la table ces derniers jours, ce matin, c'est au tour de 86 députés, donc, de tous bords, d'appeler, dans une tribune publiée par Le Figaro, à rétablir la taxe carbone. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Alors pour être tout à fait précis, les élus ne plaident pas pour un retour pur et simple de la taxe telle qu'elle avait été envisagée et mise en place. À les en croire, ce serait même tout le contraire, puisque leur réflexion répondrait, disent-ils, à une toute autre logique.
Alors sans donner la recette de ce que pourrait être une bonne taxe carbone à la française, acceptable par tous, les députés défendent la mise en place d'une fiscalité écologique enfin socialement juste et lisible, quand celle-ci était considérée par les Gilets jaunes au début de leur mouvement totalement injuste et servant avant tout à remplir les caisses de l'État, sans que le citoyen en perçoive le moindre bénéfice, pas même la planète. Les 86 députés qui signent cette tribune en sont donc convaincus. Cette fiscalité écologique, il faut l'expliquer, si l'on dit à quoi elle va servir, si elle est redistribuée aussi à 100% rendue aux plus modestes pour les aider à investir dans des énergies vertes, les aider à vraiment se passer des énergies fossiles, eh bien il n'y a pas de raison que les Français n'en acceptent pas le principe. Cela s'est passé comme cela dans d'autres pays, prennent en exemple les députés, en Colombie-Britannique, province du Canada, la taxe carbone est intégralement redistribuée, rendue, un coup de pouce apprécié et plébiscité par la population qui en voit les bénéfices au final pour leur porte-monnaie et aussi en termes de pollution atténuée. La démarche est bien vue du gouvernement qui plaide pour un retour de cette taxe carbone. Elle n'a jamais vraiment été, il n'a jamais été vraiment question de l'abandonner. C'est un des piliers de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui devrait être publiée prochainement. Impossible à financer sans hausse de la fiscalité écologique. Soutien donc du gouvernement, à l'exception de Bercy, qui redoute une nouvelle crise d'angoisse fiscale en plein débat national. Le risque, effectivement, est réel.
Merci Véronique Robérot. Alors à la faveur de cette tribune publiée ce matin, co-signée par plusieurs élus et membres de la majorité, qu'il s'agisse du rapporteur du budget Joël Giraud ou de la présidente de la commission du développement durable Barbara Pompili, une question se pose. Le grand débat national initié par Emmanuel Macron aurait-il bousculé son quinquennat au-delà du strict agenda des réformes en libérant la parole, y compris chez ceux qui jusqu'à présent donc avaient plutôt tendance à marcher au pas? Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Cette tribune intervient en effet quelques jours seulement après un record d'abstention de députés LREM sur le texte anti-casseurs. Alors sans aller jusqu'à parler de fronde, qui ferait qui plus est référence au groupe des frondeurs socialistes de la législature précédente, faut-il entrevoir ici un possible début de grogne au sein de la Macronie ?
En tout cas, la parole se libère, comme on dit. On entend plus qu'avant les discordances sur la loi anti-casseurs, donc, mais aussi la procréation médicalement assistée, la suppression des allocations pour les parents d'élèves violents. Les membres de la majorité n'ont pas plus peur de donner leur avis. Et c'est pareil sur la taxe carbone, avec ici le ministre François de Rugy, les députés LAREM Jean-Baptiste Djebbari et Stanislas Guérini, ou la secrétaire d'État Emmanuel Wargon.
C'est sur la table, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est le moment ou jamais d'en débattre. Est-ce qu'il faudrait reprendre oui, non ? Si on le fait, à quelles conditions ?
Moi ça me paraît trop tôt parce que d'abord les gens, ils veulent remettre du sens sur l'impôt qu'ils payent. Et effectivement, il y a un sujet de contribution de chacun à raison de ses capacités.
Pour moi, la taxe carbone est possible si elle est acceptée par tous et elle ne peut être acceptée que si elle est intégralement utilisée pour cette transition écologique.
Mais à une condition, c'est que ça ne se fasse pas au détriment des classes les plus populaires.
Et ce matin, donc, cette tribune signée par une partie de la majorité, emmenée par celui qui l'a quitté la semaine dernière, Mathieu Orphelin. En fait, on a l'impression que les députés LAREM, sur ce thème comme sur d'autres, n'ont plus envie de défendre seulement le projet présidentiel. Ils réalisent qu'ils ont des comptes à rendre à ce qu'ils représentent. D'ailleurs, cette taxe carbone, élément déclencheur de la crise des Gilets jaunes, remise sur la table alors qu'on est toujours en plein dedans, ces députés l'écrivent comme une réponse au mouvement. Ils en veulent une nouvelle version, plus lisible, mais surtout plus juste.
Merci Rosalie Lafarge. C'était en février de l'année dernière. Le Premier ministre annonçait une réforme globale du système de santé. Et ce matin, un an plus tard, jour pour jour, son projet de loi arrive en Conseil des ministres. Alors les grandes lignes sont d'ores et déjà connues. Pour l'essentiel, le gouvernement entend par ce texte répondre tout à la fois aux besoins accrus de soins dans une France vieillissante, ainsi qu'à l'augmentation des pathologies chroniques. Reste que le temps est compté, puisque la loi devra être votée avant la rentrée de septembre. D'où cette possibilité que le gouvernement, engagé dans une course contre la montre, précise par décret et ordonnance le contenu de sa loi. Ce qui inquiète aujourd'hui certains médecins et élus locaux. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors dans le détail, ce projet de loi propose notamment, pour accroître le vivier de praticiens, de supprimer le fameux numerus clausus, quota décidé chaque année par l'État et qui limite le nombre d'étudiants habilités à poursuivre leurs études dans les métiers de la santé censés disparaître à la rentrée 2020, de même que l'emblématique concours de fin de première année. Sauf que le gouvernement, Tara, n'a toujours pas précisé comment seront choisis les futurs soignants.
En fait, les négociations sont en cours en ce moment, localement, en région, pour construire les nouveaux schémas d'enseignement, car la mutation se veut profonde. Étudiants, doyens, médecins en exercice ont d'abord fait le constat que ceux qui réussissent la PACES, la première année où le balchotage est si intense qu'on le dit parfois destructeur, eh bien ces jeunes ont le même profil, souvent bac S, mention très bien. Or, il faudrait introduire de la diversité dans ces filières, plaide l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, sa présidente Clara Bonavion.
Une bonne partie, c'est-à-dire environ 30 à 40%, seront issus de licences déjà existantes à l'intérieur de l'université. C'est-à-dire qu'à la fin de ma première année de licence de droit ou à la fin de ma première année de licence de sciences humaines ou de maths, je pourrais prétendre à rentrer en médecine. Et comment on s'assure que les étudiants aient les bases en santé, eh ben on fait suivre à ces étudiants ce qu'on appelle une mineure santé. Une mineure santé, c'est les bases de biologie, les bases d'anatomie, quelques bases aussi sur le système de santé.
Ce qui permettra également à ces étudiants, s'ils échouent au concours, de poursuivre leurs études sans perdre un an, deux ans, en lien peut-être avec la santé, de devenir par exemple économiste, juriste, statisticien en santé. Et puis il y a tous les autres qui vont tenter quand même médecine directement après le bac comme aujourd'hui. Et là, il faut transformer la pédagogie, explique Clara.
Au final, ce sera les mêmes amphis, mais il ne faut pas que ce soit exactement les mêmes profs, il ne faut pas que ce soit les mêmes cours, il ne faut pas que ce soit les mêmes modalités d'évaluation. Et il y a une force d'élasticité qui va vouloir nous y faire revenir. Donc non, il va falloir changer les enseignements, avoir des enseignements autour d'une culture de la santé aussi. On a très peu d'enseignements sur le système de santé, sur la prévention. Et puis, avoir des modes d'évaluation bien moins ahurissants des QCM qui vont aller taper dans les coins et demander à l'étudiant tel petit détail, mais des épreuves qui sont formatives avec éventuellement des oraux pour aussi diversifier les modes d'évaluation.
Voilà, alors tout ça est encore à construire, Thomas, après le vote de la loi.
Ouais, et pour continuer d'évoquer donc ce projet de loi de santé, invité du journal aujourd'hui, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et toujours à mes côtés pour vous interroger, Tara Schlegel. Avant d'évoquer les autres points d'interrogation autour de ce projet et en particulier la révision de la carte hospitalière. S'agissant toujours de cette réforme des études de médecine, y êtes-vous favorable d'une part et le cas échéant, quels devraient être selon vous les nouveaux critères de sélection ?
Mais j'entends la difficulté que présentait la présidente de l'ANEMF. On voit que le gouvernement est dans la précipitation la plus totale, puisque le projet de loi a été présenté le 13 février, donc aujourd'hui, avec de nombreuses taches blanches, et il a prévu de fonctionner ensuite par ordonnance, c'est-à-dire avec une concertation minimale. Donc tout ça est un petit peu inquiétant, et sans la précipitation, c'est bien joli de dire on va augmenter le numerus clausus maintenant, on va avoir davantage de médecins, mais on aura peut-être davantage de médecins dans 12 ans. N'oublions pas qu'il faut 10 ans pour former un médecin au minimum, et les jeunes mettent au moins 2 ans à s'installer. Donc dans 12 ans, quand la France sera complètement désertifiée, on aura peut-être davantage de médecins, mais alors je ne sais pas comment les gens vont être soignés d'ici là. Parce
Mais sur le fond...
20% de ces médecins libéraux.
Oui, Jean-Paul Amont, sur le fond quand même, est-ce que vous trouvez que justement diversifier les profils, c'est nécessaire? Et puis par exemple, introduire un enseignement sur le système de santé, est-ce que ça permettra aux médecins de mieux collaborer entre eux? C'est aussi un des objectifs de la loi. Pour le coup.
Qui est une diversification du recrutement, c'est une évidence. C'est vrai que moi j'ai connu la période heureuse où il y a des gens qui ont réussi à faire médecine en écrivant entièrement acide chlorhydrique entièrement. Ils ne connaissaient pas la formule HCl. Donc ces gens-là ont passé l'examen 3 fois et ils ont fini par être médecins, et ce sont des bons médecins. Donc c'est vrai, la méthode de sélection est terrible, parce qu'on met sur le côté beaucoup d'étudiants, et il est capital de changer la chose. Mais ce qui se passe actuellement, c'est ce que les Français constatent, c'est la désertification galopante de médecins généralistes et de médecins spécialistes, et les Français ont de plus en plus de mal à trouver des médecins traitants. Il faut inciter fortement les jeunes médecins à s'installer rapidement, leur faire connaître maintenant ceux qui sont dans le troisième cycle, là maintenant, ceux qui ont fini dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 1 an, à s'installer rapidement avec des mesures incitatives fortes, leur faire connaître l'exercice libéral en les incitant à aller faire leur stage en zone démographiquement faible. Il y a une aide qui s'appelle le PASSET, qui est extrêmement encourageante, qui permet aux étudiants, aux médecins, d'avoir 1 200 euros par mois pour aller dans ces zones démographiquement faibles. Il faut généraliser cette aide et faire en sorte que les étudiants s'installent. C'est ça l'urgence.
Jean-Paul Amont, en ce qui concerne la réorganisation effectivement de l'ensemble de la carte, alors il y a dans la loi d'aujourd'hui le label hôpital de proximité, avec là encore quelque chose qu'on connaît pas très 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 bien, sauf qu'on peut dire qu'il y aura au moins de la gériatrie, des médecins généralistes, des laboratoires d'analyse, de la radiologie, et peut-être moins de chirurgie et de maternité dans ces petits hôpitaux, et des médecins libéraux là encore qui devraient venir travailler ponctuellement. Est-ce que vous êtes en faveur de ce projet? Est-ce qu'il est bien mené pour l'instant?
Alors écoutez, on nous promet effectivement 500 hôpitaux de proximité, comme on nous avait promis 2000 maisons de santé pluridisciplinaires, comme on nous promet 1000 communautés territoriales de professionnels de santé, 1000 CPTS. Il faudrait pour ça que la Fédération française de football cesse d'organiser la carte sanitaire. Je vous donne l'exemple de l'influence politique. La maternité de Guingamp devait fermer. Eh bien, Noël Le Graët a rencontré Emmanuel Macron à la Coupe du Monde à Moscou. Et Emmanuel Macron a décidé de laisser ouverte la maternité de Guingamp, alors que l'ensemble des professionnels de santé de Bretagne étaient d'accord pour fermer cette maternité qui remplissait pas les conditions de sécurité. Voilà la difficulté auxquelles on va être confronté si on laisse les politiques décider à la place des professionnels de santé.
Mais ça, c'est quand même un épiphénomène sur le fond de ces hôpitaux de proximité. Est-ce que ça, c'est une bonne idée de graduer les soins, comme on dit?
Mais écoutez, ça fait des années qu'on demande qu'il y ait une organisation sanitaire, de faire en sorte que la médecine de proximité ait les moyens d'accueillir les soins non programmés avec du personnel, avec des locaux corrects pour accueillir correctement les patients, que les gens n'aillent plus s'entasser à l'hôpital sans aucune régulation. Si les médecins généralistes avaient les moyens d'accueillir correctement les soins de proximité avec des étudiants, avec des internes qui découvrent la médecine libérale, des locaux corrects et avec un minimum de revalorisation, et que les spécialistes aussi participent à l'organisation sanitaire, et que les gens n'iraient à l'hôpital qu'en ambulance ou sur un courrier d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste, on ferait enfin une vraie réforme, car les hôpitaux auraient les moyens de se concentrer sur leur métier qui est l'hospitalisation. le personnel hospitalier, hospitalier travaillerait dans de bonnes conditions et les médecins libéraux feraient du bon travail en ayant les moyens d'accueillir les soins de proximité. Il faut cette vraie réforme. Mais là, visiblement, on est en train de décider qu'on va faire 500 hôpitaux de proximité. Vous avez des députés qui décident de donner 70 euros aux urgences hospitalières pour renvoyer les patients vers la médecine de ville. Il n'est prévu aucune revalorisation pour la médecine de ville. On donne de l'argent aux urgences pour ne pas prendre en charge des patients et on donne rien à la médecine libérale. Donc incontestablement, si vous voulez, on aimerait bien un petit peu de cohérence et un petit peu d'attention pour la médecine de ville qui est en train de se désertifier. Et voilà ce qui nous inquiète beaucoup.
Et merci. On terminera là-dessus. Merci Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Tara Schlegel. Autre projet de loi s'agissant cette fois-ci de la réforme globale de la justice. Les textes créant un parquet national antiterroriste et ouvrant par ailleurs la voie à une révision de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs ont tous deux été adoptés hier soir en nouvelle lecture par le Sénat. Deux projets de loi, rappelons-le, contestés aujourd'hui par les professions judiciaires et l'opposition. Législation toujours et encore dans le cadre cette fois-ci du projet de loi sur l'école de la confiance. L'Assemblée nationale a adopté hier un amendement MoDem qui érige le droit à une scolarité sans harcèlement comme un principe du droit à l'éducation. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Avant toute chose, précisons que chaque année, un enfant sur 10 est victime de harcèlement. Alors, inscrire pour la première fois dans le code de l'éducation le droit de chaque élève de ne pas être exposé au harcèlement scolaire s'accompagnera nécessairement, le cas échéant, de sanctions disciplinaires pour les harceleurs, mais cela devrait permettre aussi de favoriser par exemple des campagnes de sensibilisation ou de prévention pour inciter les élèves à ne plus tolérer certains comportements.
Oui, cette mesure, les spécialistes l'attendaient depuis des années, d'autant qu'avec les réseaux sociaux, le phénomène s'est amplifié. Alors qu'il existait déjà une journée nationale, ainsi que des lycéens ambassadeurs au nombre de 5000 pour sensibiliser les élèves. En étant inscrit dans la loi, le ministère, qui ne veut pas parler pour l'instant de répression, espère surtout une meilleure prise de conscience des élèves. Car désormais, ils seront sanctionnés plus fortement. Parmi les sanctions envisagées figure par exemple l'obligation pour le harceleur d'accomplir un stage de sensibilisation. Un vote qui est salué par la FCPE, qui attend désormais une meilleure formation selon son coprésident Rodrigo Arenas.
Maintenant, la question qui se pose, c'est les moyens qui vont être affectés. On avait demandé, notamment avec la FCPE du 93, il y a quelques temps, d'avoir des moyens humains supplémentaires pour écouter les enfants, notamment ceux qui se sentent harcelés par des adultes aussi, parce que c'est aussi sous-estimé. C'est-à-dire que le harcèlement d'enfants envers enfants, on sait plutôt bien faire. En revanche, harcèlement d'adultes envers enfants, là, on est beaucoup plus timide et pour cause. La FCPE met en place des formations tout au long de l'année, des vidéos aussi consultables sur nos sites internet sur ces questions-là depuis longtemps. Il faut vraiment que la question du harcèlement, c'est une cause nationale, tout simplement parce que c'est les conditions de la scolarité des élèves qui est en cause et aussi la prise en compte de des adultes, que parfois les enfants ne vont pas bien et qu'il faut répondre de façon, on va dire, offensive.
Rappelons qu'un élève sur 10 est victime de harcèlement, avec des conséquences dramatiques pouvant aller parfois malheureusement jusqu'au suicide.
Merci Hakim Kasmi. Le président de la société de sécurité Velours, dont le nom est apparu dans la tentaculaire affaire Benalla, doit être entendu aujourd'hui comme témoin. Le nom de sa société, qui employait l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, a été cité à propos d'un contrat signé entre d'un côté un sulfureux oligarque russe, et de l'autre, la société de Vincent Crasse, cet ancien employé de La République En Marche, lui-même mis en examen avec Alexandre Benalla pour les violences du 1er mai. Le conseil d'administration de Renault réuni ce matin pour approuver les comptes annuels du constructeur automobile envisage d'annuler jusqu'à 30 millions d'indemnités à Carlos Ghosn. Il devrait également décider de ne pas verser une somme de 4 à 5 millions à son ex-PDG dans le cadre d'une clause de non-concurrence de 2 ans. Et puis, ultime rebondissement dans cette saga qui secoue le monde des affaires depuis maintenant 3 mois. Carlos Ghosn, détenu à Tokyo pour des malversations financières présumées, a décidé de changer son équipe de défense. Son principal avocat a annoncé ce matin se retirer du dossier. Aucune raison n'a été fournie pour expliquer cette décision. des administrations publiques à la collecte des déchets en passant par les transports, la poste, les écoles, les hôpitaux, mais aussi les entreprises ou bien encore les centres commerciaux. La Belgique est entièrement paralysée aujourd'hui. Les trois plus grands syndicats ont appelé à la grève générale dans le public comme dans le privé. En cause, un texte de loi qui prévoit de transférer à des experts la question des augmentations de salaires qui doivent être négociées avec le patronat. Sans compter qu'à l'approche des élections législatives fédérales du 26 mai prochain, eh bien, les syndicats entendent ne rien lâcher. C'est une correspondance à Bruxelles signée Pierre Benazet.
Devant les portes closes d'un grand hypermarché bruxellois, vêtu d'un blouson jaune fluo, Martin Indesteck participe avec d'autres employés au piquet de grève qui refoule les clients potentiels. L'échec de la négociation salariale avec les employeurs, elle en voit les effets toute la journée à sa caisse.
Avec le pouvoir d'achat, on voit bien, hein, on ne peut plus nier les deux bouts. Hein. On voit bien que même pour 30 euros, on n'a plus rien qu'à dire. Hein. Alors là-bas en haut, ils ont intérêt d'un peu faire bouger les choses. Hein.
Vendeur électroménager, Laurent Defoy est lui habillé en vert aux couleurs de son syndicat, la CSC. Il prévient que le Front commun syndical à l'origine de cette grève nationale fera la vie dure au gouvernement s'il n'y a pas d'augmentation du taux d'indexation automatique des salaires qui est censé être calqué sur l'inflation.
Le pouvoir d'achat a baissé de plus de 20% en Belgique ces quelques dernières années, à cause justement d'une dégressivité et de mesures totalement antisociales. Les élections en Belgique auront lieu le 26 mai et jusqu'au 26 mai, nous sommes mobilisés et nous sommes mobilisables et nous mobiliserons.
L'autre conflit des salariés est avec les employeurs, avec qui ils doivent négocier la marge salariale, le plafond maximal des augmentations de salaire. Les négociations ont achoppé il y a 3 semaines et dans ce pays très fortement syndiqué, l'ampleur de la grève nationale d'aujourd'hui pourrait être facilement reproduite selon le Front commun.
Un reportage à Bruxelles signé du correspondant de RFI pour France Culture, Pierre Benazet. C'était l'une des conséquences attendues de l'ouverture hier à Madrid d'un procès historique à l'encontre de 12 leaders sécessionnistes catalans. Le projet de budget 2019 préparé par le gouvernement a été rejeté ce matin par le Parlement. L'issue de ce vote ne faisait guère de doute puisque les indépendantistes avaient annoncé qu'ils voteraient contre le projet de loi de finances. Un rejet qui renforce de fait la probabilité d'élections législatives anticipée. L'Australie s'apprêterait à rouvrir un camp de rétention de migrants extrêmement controversé, annonce faite ce matin par le Premier ministre, dont le gouvernement a subi la veille un revers historique au Parlement. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Hier, l'opposition en effet voté contre l'avis de la droite au pouvoir plusieurs amendements permettant aux demandeurs d'asile relégués dans des camps offshore d'être transférés sur le continent. D'où la réaction immédiate donc du gouvernement, lequel entend bien l'empêcher à tout prix les migrants de fouler le sol australien.
Et l'objectif du Premier ministre Scott Morrison est clair, empêcher, vous l'avez dit, l'arrivée de réfugiés sur le sol australien. Le chef du gouvernement a expliqué que les derniers amendements votés par l'opposition et les indépendants au Parlement entraîneraient un afflux de clandestins en direction des côtes australiennes. Hier, par 75 voix pour et 74 contre, la Chambre des représentants a adopté de nouvelles législations sur le traitement médical des demandeurs d'asile relégués dans des camps. Textes qui permettront aux milliers de personnes exilées d'être envoyées en Australie pour se faire soigner. Permettre l'accès à un traitement médical adéquat pour les réfugiés et les demandeurs d'asile est un impératif humanitaire pour sauver des vies, a déclaré Louise Aubin, représentante à Canberra du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Depuis des années, l'Australie est critiquée pour sa politique migratoire et en particulier sur les conditions de détention dans des camps comme celui de l'île Christmas que le Premier ministre veut rouvrir. Sur cette île, à plus de 2000 km de Perth, capitale de l'État d'Australie occidentale, a été ouvert en 2008 un camp de détention de migrants en conditions telles qu'en 2015, une violente émeute a éclaté après la mort d'un demandeur d'asile, plusieurs suicides et d'auto-mutilations. Et c'est ce qui a entraîné la fermeture de ce centre en octobre dernier. Le Premier ministre conservateur australien est un fervent partisan de la tolérance zéro contre les boat people. Il promet de repousser systématiquement les bateaux de réfugiés qui tentent de gagner légalement les côtes australiennes. Et pour celles et ceux qui parviennent à entrer, Scott Morrison veut les éloigner dans des camps de rétention, d'où sera instruite leur demande d'asile.
Merci Nadine Epstein. Plus de 2 semaines après son arrestation, le principal opposant camerounais Maurice Kamto, lequel conteste la réélection en 2018 du président Paul Biya, a été inculpé la nuit dernière de rébellion. L'avocat de renom, ancien ministre, a été présenté avec 28 de ses partisans devant le tribunal militaire de Yaoundé qui les a tous inculpés avant d'être transférés à la prison centrale. Rappelons que depuis 1982, Paul Biya règne en maître absolu au Cameroun où il a tout verrouillé pour assurer son maintien à la tête du pays. Enfin, au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, des élections générales sont prévues samedi prochain. Hier, plusieurs personnes ont été tuées dans une bousculade à la fin du meeting de l'actuel président. Le week-end dernier, 5 personnes avaient été tuées dans des règlements de compte politiques entre les partisans du parti au pouvoir et de la principale formation d'opposition. On termine avec un mot rapide de météo après dissipation des grisailles matinales. Le soleil devrait s'imposer cet après-midi sur l'ensemble du territoire, à l'exception des régions autour du golfe du Lion. Les températures, elles seront généralement comprises entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Maxime Fayolle pour le prochain journal de la rédaction.